RFI, il est 1h à Paris, minuit en temps universel.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, l'Allemagne traumatisée au lendemain d'une attaque à la voiture bélier sur un marché de Noël à Magdebourg. Bilan provisoire de 5 morts et 200 blessés. Une cérémonie d'hommage a eu lieu ce soir dans la cathédrale de Magdebourg. Le chancelier Olaf Scholz était présent sur place, vous l'entendrez. Les États-Unis vont pouvoir exporter du maïs génétiquement modifié au Mexique. Plus de détails dans ce journal et puis la Serbie au cœur d'une mobilisation qui pourrait s'avérer explosive pour le gouvernement en place. L'Allemagne encore sous le choc après cette attaque à la voiture bélier sur un marché de Noël à Magdebourg. Pour l'instant, 5 morts et 200 blessés. Les cloches de la ville de Magdebourg ont sonné dans la soirée en hommage aux victimes. Le chancelier Olaf Scholz s'est rendu sur place. Il a lancé un appel à la cohésion nationale. Pascal Thibault.
Olaf Scholz était sur les lieux du drame ce matin, aux côtés du ministre-président de la Saxe-Anhalt, dont Magdebourg est la capitale, le chef de l'opposition, le président du parti chrétien-démocrate, et favori aujourd'hui pour succéder Olaf Scholz, Friedrich Merz, était également présent sur les lieux du drame. L'Allemagne officielle voulait afficher sa solidarité. Des gerbes ont été déposées au pied d'une église voisine des lieux du drame, ce que des habitants de Magdebourg avaient également déjà fait. Lors d'une brève déclaration, Olaf Scholz a déploré le bilan humain énorme après cette attaque à la voiture Bélier. Le chancelier veut que l'auteur soit poursuivi avec toute la rigueur possible, mais que la haine ne s'impose pas dans son pays, que les Allemands restent soudés dans l'adversité. L'auteur de cette attaque meurtrière, arrêté très rapidement hier soir, est un Saoudien de 50 ans, au profil qui interroge. Ce psychiatre, formé en Allemagne, y habite depuis 18 ans. Il est un opposant résolu du régime saoudien sur les réseaux sociaux. Cet activiste dénonce le danger de l'islam et semble s'être rapproché des thèses de l'extrême droite allemande. Un débat est en cours sur des publications qui pourraient laisser penser qu'il passerait à l'acte. On ignore encore pourtant ce qui l'a poussé à une telle attaque hier. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et depuis, les réactions s'enchaînent. Joe Biden dénonce un acte abject. Le pape François a exprimé sa consternation. En France, le ministre chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, se rendra sur place dimanche. Direction la Syrie désormais. Assad Hassan al-Shibani est le nouveau chef de la diplomatie. Il a été nommé ministre des Affaires étrangères par les nouvelles autorités syriennes. Il devra organiser les relations avec les représentations étrangères qui font peu à peu leur retour à Damas après la chute de Bachar al-Assad. Le Qatar vient d'ailleurs de rouvrir son ambassade à Damas, une première depuis 13 ans. C'est le deuxième pays après la Turquie à avoir ouvert son ambassade depuis la prise du pouvoir par la coalition du groupe armé menée par Ayat Tahrir al-Sham. L'actualité dans la région, c'est aussi Gaza, un accord de cessez-le-feu plus proche que jamais selon le Hamas et deux autres groupes palestiniens. Dans un communiqué, ils évoquent une possible trêve et un échange de prisonniers avant la fin de l'année. Mais pour cela, il faudra qu'Israël, je cite, cesse d'imposer de nouvelles conditions. De son côté, le pape François a condamné la cruauté de la frappe israélienne qui a tué 7 enfants à Gaza. Des critiques déconnectées selon l'État hébreu qui accuse le pape de deux poids deux mesures. Les États-Unis peuvent-ils exporter au Mexique du maïs génétiquement modifié? La réponse est oui. C'est ce qu'a conclu ce vendredi l'instance de règlement des différends du traité de libre-échange nord-américain. Une victoire pour Washington alors que Mexico bloquait depuis le début de l'année l'entrée dans le pays de maïs génétiquement modifié pour protéger les variétés locales et les droits des peuples autochtones. Justine Fontaine.
Le Mexique n'a pas apporté de preuves scientifiques montrant que le maïs transgénique porte atteinte à la santé humaine, animale et végétale. C'est la conclusion sévère du panel chargé de trancher le différend entre Washington et Mexico. En vertu de l'accord de libre-échange qui lie les deux pays, le Mexique a donc 45 jours pour lever les restrictions d'importation. Le gouvernement a confirmé qu'il mettrait donc fin à un décret qui interdisait notamment d'utiliser du maïs OGM dans l'alimentation humaine, en particulier pour fabriquer des tortillas, ces galettes de maïs omniprésentes au Mexique. Par cette mesure, le pays disait vouloir protéger la biodiversité locale et les droits des peuples autochtones, dont le maïs est l'aliment de base. Washington, pour sa part, salue une victoire pour les agriculteurs américains. L'enjeu était de taille, car le Mexique est leur premier client pour le maïs. 40% de leur production annuelle part chez le voisin du Sud, soit plus de 5 milliards de dollars l'an dernier. Cette année encore, la sécheresse a obligé Mexico à acheter davantage d'épis et de grains de maïs sur les marchés internationaux, principalement pour le bétail.
Une décision qui intervient alors que Donald Trump accuse le Canada et le Mexique de ne pas assez ouvrir leur marché malgré l'accord de libre-échange qui lie les trois pays. Le président américain élu s'est dit prêt à mettre en place des droits de douane de 25% sur les produits importés du Mexique et du Canada dès son arrivée au pouvoir le 20 janvier prochain. Donald Trump, justement, qui vient d'annoncer la nomination de Mark Burnett comme émissaire au Royaume-Uni. Il était le créateur et producteur de l'émission de télé-réalité The Apprentice, ce qui l'a rendu très célèbre. RFI 1h05 à Belgrade. Une importante manifestation est prévue dimanche dans la capitale serbe. Depuis plusieurs semaines, un bras de fer est engagé entre les étudiants et les institutions sous contrôle du parti du président autoritaire serbe. Les manifestants demandent justice après la mort de 15 personnes tuées sous un auvent de la gare de Novi Sad. La jeunesse veut mobiliser la société civile. Les agriculteurs de tout le pays vont les rejoindre. Pour Milan Nikolic, sociologue et ancien leader étudiant condamné à 2 ans de prison sous Tito, cette mobilisation peut s'avérer explosive pour le gouvernement en place.
Les étudiants font partie d'une tranche sociale avec leurs propres caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont ensemble. L'université de Belgrade compte environ 100 000 étudiants. C'est un groupe très important, organisé. Autre particularité, ils passent leur vie entre chez eux et l'université, ce qui leur confère une certaine indépendance. On peut difficilement leur faire du chantage. Ils sont nourris et logés par leurs parents. Ils ne peuvent donc pas subir de chantage dans leur travail. Le pouvoir leur promet des crédits immobiliers sans frais, des transports gratuits pour tous. Autre caractéristique des étudiants, ils ont des connaissances toutes fraîches de ce qu'est la démocratie de sa naissance en Grèce ou de ce qu'est une démocratie parlementaire et comment un tel système devrait fonctionner, tout comme une démocratie libérale. Tout cela, mis bout à bout, peut avoir des conséquences explosives. Si ce régime exagère dans ses provocations, cette tranche de la population sera celle qui réagira le plus vite. Ce sont les étudiants qui sont le plus à même de réagir le plus brusquement.
Milan Nikolic joint à Belgrade par Yelena Tomic. À Mayotte, une semaine après le cyclone Chido, 35 morts et 2500 blessés officiellement, mais le bilan pourrait être plus lourd. L'eau courante est revenue dans le chef-lieu de l'archipel, plusieurs stations-service ont réouvertes, mais les habitants attendent une aide qui arrive au compte-gouttes. Elle s'appelait Marie-Thérèse Ordonez, mais les Français la connaissent sous le prénom de Maïté. Cette icône du monde de la gastronomie et de la télévision vient de mourir à 86 ans. Pendant une vingtaine d'années, elle a incarné au petit écran la cuisine du terroir avec sa gouaille légendaire et ses méthodes de cuisine rustique. Son portrait est signé Edmond Sadaka.
Pieds de porc en salade, tête d'agneau à la persillade, ce sont quelques-unes des recettes qui ont fait la légende de Maïté. Les téléspectateurs l'ont découverte en 1983 grâce à l'émission La cuisine des mousquetaires sur FR3, l'ancêtre de France 3. Elle préparait des plats traditionnels, essentiellement de son sud-ouest natal, mais surtout elle avait ce don rare de transformer une simple recette en spectacle. Parmi les moments cultes, une séquence où, aux côtés de son acolyte Micheline Banzel-Auton, elle assomme avec un pilon une anguille vivante avant de la cuisiner.
Ne bouge pas, ma chérie, on va juste. C'est rien. Oh, viens là, ma puce. Viens là, ma puce. Viens là, ma biche. Oh, viens là, ma chérie. Tu n'auras pas ma peau. Voilà.
Rien ne prédestinait Maïté à devenir une star du petit écran. Elle qui avait débuté à la SNCF avant d'être repérée sur le tard par un réalisateur. À la télévision, sa carrière a duré une vingtaine d'années. En parallèle, elle a multiplié les éditions de livres de cuisine. Elle a ouvert 2 restaurants, prêté sa voix à des publicités et même fait du cinéma. Depuis 2010, elle vivait une paisible retraite dans son petit village des Landes.
Et sur le réseau social X, Emmanuel Macron a tenu à saluer une ambassadrice de notre cuisine traditionnelle. Et puis avant de terminer ce journal du sport, 7 mois après sa première victoire, l'Ukrainien Oleksandr Usyk a de nouveau battu le Britannique Tyson Fury samedi à Riyad, c'est de la boxe. Il s'est imposé au point par décision unanime, 116 à 112. L'Ukrainien de 37 ans conserve ainsi ses ceintures de poids lourd et reste invaincu en 23 combats. Ainsi se referme ce journal, où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté.